Des lochis de brebis. C'est à ça qu'Abel avait pensé. Ou des éclats de cerises écrasés, trop mûrs, gorgés d'eau après la pluie, ignorés des oiseaux. Elles finissent en traînées de peau orangée, sale et plate, si fine et tenace qu'elle colle aux sabots. Il faut frotter les semelles longuement sur la pierre polie au seuil de la maison pour ne pas entendre gueuler la mer. C'est à ça qu'il avait pensé quand il l'avait vue. Pourtant, pas de cerises ici, pas d'oiseaux non plus, sauf ceux qui bouffent les viandes à l'aube dans le silence. Ils ont trop à bouffer. Ils viennent plus rarement ces temps-ci. Dans la brume, on les devine. Les chairs sont prêtes. Ils se fatiguent pas, les charognards. Ils ont qu'à se servir, et c'est le cliquetis acide de leur bec qui te tire du mauvais sommeil. Tu les voyais dans tes rêves, et là tu les entends. Pas de sabots non plus ici. Voilà bien longtemps que les brodequins en cuir clouté les ont remplacés. Ça s'était arrêté de taper. C'est toujours pareil quand ça se calme. T'as l'impression d'être sourd. Le silence te tamponne à l'intérieur, mais t'es vivant. Tu te le dis à chaque fois. Surpris comme à la foire quand tu gagnes un tour gratuit de manège à vapeur ou le ticket pour tenter de décrocher la timbale au mât de cocagne. T'es vivant. T'as le droit de revenir. Après l'obus, t'as intérêt à regarder où tu mets tes galoches. Faudrait pas te laisser engloutir dans le trou qui n'attend plus que toi. Si profond que t'en remontes jamais. Bien des gars ont crevé en regardant le ciel, les mains esquintées à force de gratter, de s'agripper aux parois argileuses qui glissent entre les doigts comme un pain de savon. Le poids du barda les ramène en arrière, épuisés, vaincus au fond de leur tombe, gueule de terre déjà prête. Des guêpes au fond de l'entonnoir plein de miel, qui s'agitent pour remonter mais restent engluées, encore et encore. On en a repêché des malheureux presque à poil. Les bougres avaient cru que délestés du fusil, de l'uniforme et du reste, ils réussiraient à s'envoler. Mais sans aide, la terre aurait fini par les avaler. Les fossoyeurs se la coulent douce ici. Les tombes sont payées par les boches. C'est trop con de crever comme ça. Les gars en parlent. Tu te crois seul à faire ce cauchemar, t'oses pas le dire, et puis un soir après la chopine, un soir plus dur, plus froid ou plus mouillé que d'habitude, y en a un qui commence, et tu t'aperçois qu'il raconte ton histoire, ta trouille et ta démence. La pisse dans ton froc au matin quand t'as passé la nuit à rêver que tu rampais comme un rat. Des crampes dans les pieds à force d'essayer de trouver un appui. Tu vaux pas mieux que le porc avant la saignée ou le poulet dans le creux du tablier de la mer qui se débat pour pas la laisser gagner trop facilement. Ils ont tous peur de crever. Mourir, oui, ils le savent bien, mais crever... Les mouches, les totos gros comme des lièvres et les vers pour finir. Ça, ils peuvent pas s'y faire. Alors quand Abel l'a vu, le gars ne bougeait plus. Le corps enseveli, comme bordé par une épaisse couverture. Cette terre-là, brune, grasse et collante, son frère Maurice l'aurait bien aimée, une terre riche de promesses, devenue charnier. Rien à voir avec celle si sèche qu'elle s'envole au premier coup de bise, dont il se tue, comme le père avant lui a cassé l'écorce. Dans l'amas humide, une lumière, des coquelicots orphelins esselés dans un fossé sans herbe. Après le déluge, on s'attarde pas. On se fait tout petit pour regagner la tranchée. Mais il pouvait pas le rater. La tronche en charpie sur tout un côté. On aurait dit que ces saloperies de corbac s'étaient déjà servies. Ce n'est pas beau, ce qu'on a en dessous. Des fois au-dessus non plus, mais là, c'était vraiment dégueulasse. De la paille souillée après la mise bas. Tout pareil, du rose, du rouge. Ça s'arrêtait au nez qui tenait fin et droit comme une frontière qui n'aurait pas cédé. Des lèvres minces soulignaient, indécentes, la bouillie du dessus. Une moitié de gars. Le corps englouti, ça ne fait plus beaucoup pour un bonhomme. Et ce bras qui dépassait, agrippé au ciel. Peut-être s'était-il senti partir, peut-être avait-il voulu une dernière fois, l'ultime. Levez la main pour ne pas disparaître. Il était là, le doigt en l'air comme un gosse à l'école qui a encore quelque chose à dire et que le maître ne voit pas car il en interroge un autre. Abel l'a tout de suite remarqué, à l'annulaire. La chevalière en or, lourde, carrée, gravée de la lettre M. Une impression brève et confuse de déjà-vu, mais dans ce bourbier, T'as la cervelle à l'envers, tu sais plus l'ordre des choses. » Il n'arrivait pas à se rappeler. Abel a gueulé en lui saisissant le bras. Il ne pouvait pas le sortir de là tout seul. Le silence et la blancheur ouatée les encerclaient. La terre recrachait la flotte des derniers jours en brume épaisse. Il a commencé à creuser pour dégager l'épaule, chercher une prise. Le gars respirait. Une mousse transparente sortait de ses lèvres, puis retournait dans sa bouche, régulière, comme un métronome. Abel ne voyait rien ni personne, et il n'entendait rien non plus. Une seconde, il a pensé que l'obus l'avait rendu sourd. Il serait pas le premier ni le dernier. Combien sont devenus fous à s'en taper la tête, renvoyés chez eux, regrettant même de ne plus entendre le bruit des shrapnels. Mais la grosse voix de l'Émile avait percé le brouillard derrière lui. D'un coup, le pantin qui sort de sa boîte et ses paluches se sont abattus sur son gars. Il fallait pas traîner. L'Émile, c'est le plus costaud de l'escouade. Pas un n'est plus balèze que l'Alsacien. Les gars le charrient et le surnomment Rabiot. Il faut dire qu'il bouffe sans arrêt, toujours à la recherche de rab. Une demi-boîte de sardines ou de singes et il te prend ta corvée, celle dont personne ne veut. Rapporter la soupe depuis la roulante dans la cantine qui pèse une tonne, enjamber les gars tout le long des boyaux, tirer, pousser, en priant pour que le chargement ne verse pas et tienne la route car les bougres t'attendent plus que le messie. Quand il tarde et revient rouge de trop de chopine, que la soupe est froide et le rata plein de terre, certains lui reprochent d'être une moitié d'alboche. Là, tout de suite, Abel était content de le voir arriver. Taillé deux fois comme lui, il était l'homme de la situation. Il avait entendu Abel gueuler plusieurs fois dans l'épaisse brouée. Faut dire qu'il y était allé fort. Et l'Émile, il n'est pas du genre à se poser des questions. Moitié frites ou pas, il était venu. Abel avait creusé tout ce qu'il pouvait autour du bras en l'air. Les yeux clos, le gars gémissait, mais à peine, juste histoire de rappeler qu'il n'était pas mort. Des chiens qui cherchent un os. Voilà où ils en étaient rendus. Dans le silence lourd et poisseux, ils étaient deux gars affairés à en sauver un autre bien plus mal en point qu'eux. Dans ces cas-là, les cas désespérés, Abel remarquait toujours des trucs insignifiants, des détails dérisoires. La moustache du gars était rudement bien taillée. Une gueule écrabouillée, et il admirait la ligne ordonnée, sculptée, raffinée, comme il ne s'en fait plus beaucoup par ici. Abel a dit à l'Émile pour l'encourager qu'il ne déterrait pas n'importe qui, pour sûr. Dès qu'il a été possible de le saisir sous les bras, le costaud l'a tiré d'un coup. Il s'est retrouvé sur le cul, le gars en couverture qui l'entourait, comme une mère son gamin. Le corps intact, la charpie du visage semblait encore plus effrayante, perdue dans tout ce bras. Émile s'est relevé. « Putain, il est bien amoché celui-là, je sais pas si... » Abel ne lui a pas laissé le temps de finir. Il voulait le ramener, le bonhomme, et se tirer de là. Il s'acharnait sans raison. Le malheureux n'était pourtant pas un copain. Émile a dû lire dans ses yeux qu'il ne renoncerait pas. Il lui a filé son havresac, son fusil, et il a chargé le bébé sur son dos. Il est passé devant. Courbé sous le barda, Abel avançait lentement. Même à deux, Émile progressait plus vite vers la tranchée qui, à chacun de ses pas, semblait reculer comme s'il ne réussirait jamais à la regagner. Abel a entendu le bruit bien avant qu'il ne devienne douleur. L'attelage devant lui a soudain disparu. Cloué au sol, un boxeur mis KO, Abel comprend qu'il est touché. Il glisse sa main sur sa jambe droite. C'est chaud, humide, épais. Un éclat d'obus s'est logé en haut de sa cuisse. Il essaie de bouger, de pousser sur l'autre guibole, mais elle ne répond pas non plus. Sa cheville a été brisée par la branche qui gît à côté de lui. Des arbres, il n'y en a pourtant plus beaucoup dans le paysage. Fallait encore qu'il s'en trouve un pour lui. Les gars rigoleraient. Au moins, t'as pas eu la chance des cocus. Les balles des mitrailleuses se sont mises à pleuvoir. L'instinct de survie lui a fait oublier la douleur. Il a rampé comme un lombric, foutu qu'il était. Un choc immense a volé toute la lumière. Abel a bouffé la terre, puis plus rien.